بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc ce soir, inshallah, on complète le chapitre concernant la personne qui a le cœur attaché au masajid. On avait vu que cette personne fera partie des gens qui, incha'Allah, seront appelés pour être sous l'ombre du trône d'Allah, azzawajal, le jour des comptes. Et dans les programmes précédents, on avait expliqué la situation des gens le jour de Qiyam, entre les personnes qui seront heureux, qui seront à l'abri des tourments, des fitan, qui n'auront pas supporté la vision des adab, des châtiments de l'enfer, et les gens qui, malheureusement, vont connaître difficulté sur difficulté. Et en général, quand on passe du dunya à l'au-delà, c'est les premiers pas qui sont décisifs. Ce sont les premiers pas qui sont décisifs. C'est-à-dire que, qu'on avait expliqué dans d'autres programmes, la personne qui voit Malik al-Maut arriver, en fonction de l'apparence de Malik al-Maut, il sait déjà quelle va être sa destination. Si c'est un Malik al-Maut rempli de rahmah, de bénédiction qui descend, qui arrive vers lui, avec des malaïka qui lui annoncent la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de toi, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. La personne sait que dès le départ, elle a eu l'annonce de bonnes nouvelles, Allah est content de lui. Donc la personne sait pertinemment que toutes les étapes qui vont venir après, ce seront là que la concrétisation du contentement d'Allah. Dans chacune de ces étapes, il va voir comment Allah Ta'ala est satisfait de lui. C'est-à-dire au moment où il va être enterré, quand il aura à répondre les questions et la résurrection de toutes les étapes. Donc la personne qui le jour de Qiyam, dès le début, dès les premières étapes du Mahshar, de l'au-delà, vous savez que les gens seront ressuscités avec les personnes les plus proches d'eux. Les plus proches d'eux, pas par rapport aux familles ou les habitudes, par rapport aux adat, aux habitudes, enfin, c'est-à-dire aux pratiques, on va dire, aux pratiques. Une personne qui pratiquait sera, Inch'Allah, proche des gens qui pratiquaient le dîn. Une personne qui aimait les plaisirs, qui aimait, Wallah Musta'an, le haram, sera ressuscité malheureusement avec les gens qui avaient les mêmes tendances. Donc la personne qui, dès les premiers instants du mahshar, de la résurrection, se voit être appelée pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire que c'est un homme qui sera heureux jusqu'à la fin, pour l'éternité. Il n'y a qu'à partir du moment où, dès le départ, il a été invité par Allah pour avoir cette position, ça veut dire que c'est un homme qui ne connaîtra aucune angoisse de l'au-delà. Parce que dès le départ, Allah l'a rassuré en l'abritant sous l'ombre de son trône. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas réserver. Il n'y a pas de nom de domaine pour ça. Il n'y a pas de possibilité de faire, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de titre, même pas de titre. Ce n'est pas parce que je suis un alim, mufti ou tout, que je suis sûr d'avoir cette situation-là. Wallah, il y a des gens qui n'auront pas autant de science, mais qui sont élevés par Allah. Il y a des gens qui auront la science, qui ont la science, qui seront les premiers à entrer dans le Jahannam. Oui ou non? Vrai ou pas vrai? C'est choquant d'entendre ça. Prophète nous a bien expliqué que parmi les premières personnes à être précipitées directement dans le Jahannam, direct, alim, alim, qari, personne qui maîtrise la science, le Coran, mais qui le faisait pour les gens, pour les éloges. Comment on appelle ça en arabe? Ria, Suma, Shuhra, il y a trois noms. Qu'on le voit, qu'on entend parler de lui et que la personne devienne célèbre. À cause de ça, Allah Ta'ala va le rejeter. Tout ce qu'il a pu cumuler comme bonnes actions dans son domaine à lui, dans le domaine de la lecture, de la science, s'il le faisait pour les gens, shohra, ou alors pour que les gens le voient, riya, ou pour qu'on entend parler de lui, sum'a, Allah Ta'ala va rejeter l'action. Alors que, subhanallah, cette action-là, c'est la meilleure des actions. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Meilleur parmi vous, celui qui apprend le Coran, qui enseigne. Oui, c'est la meilleure des actions, à condition qu'il y a l'ikhlas, qu'il y a la sincérité. Une action peut passer de l'extrême positif à l'extrême négatif. Et qu'est-ce qui fait changer d'état? Ikhlas ou absence de ikhlas. Donc, ces personnes qui seront appelés sous l'ombre du trône d'Allah, on essaie de revenir vers le sujet parce qu'il faut terminer vraiment ce soir, ces personnes qui seront appelées pour être sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, le jour des comptes, c'est des gens qui, Inch'Allah, ont la garantie d'avoir le cœur tranquille et apaisé.
Et encore une fois, ce n'est pas le titre, ni la famille, ni la, je ne sais pas moi, ce n'est pas parce que j'ai un papa ou j'ai un grand-père qui était un grand alim, un grand fundi, un grand mufti, que ça me garantit moi aussi une place avec lui, là, wallah. Et donc, celui qui a cette chance, c'est vraiment l'homme le plus heureux de l'au-delà. Et il suffit d'être heureux dans l'au-delà, même si on n'était pas heureux, satisfait dans ce bas monde. Bas yakfi. Celui qui est tranquille dans l'au-delà, c'est l'homme le plus heureux de la création. Même si dans ce dunya, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam dit qu'Allah ta'ala dit que celui qui a la crainte d'Allah dans ce monde, en permanence, le jour des comptes, Allah lui garantit la tranquillité. Il ne sera pas angoissé. Parce qu'Allah ne donne pas deux craintes pour une même personne dans deux mondes. Celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur, de ce dunya, le jour des comptes, il n'aura pas de crainte. Il sera apaisé, le cœur tranquille, parce qu'il sera sous la protection d'Allah et il va voir qu'est-ce qu'Allah est en train de lui accorder. Alors que celui qui, man aminani, celui qui se sent en sécurité de ce dunya, qui ne pense pas à Allah, qui ne pense pas aux conséquences de ses actions, de ses décisions, cette personne-là, Allah fait la promesse qu'Allah ne donne pas deux tranquillités à une même personne dans deux mondes. Celui qui avait la tranquillité du cœur, tranquillité du cœur, c'est l'expression qu'on utilise pour le iman, hein, mais on pourrait plutôt parler de rafla, l'insouciance. On va voir comme ça. Celui qui avait le cœur tranquille, insouciant dans ce monde, il ne pourra pas avoir le cœur tranquille de l'au-delà. Celui qui vivait comme il voulait, il faisait ce qu'il voulait faire, quand il faisait, en toute liberté, en se sentant libre, comme beaucoup de gens aiment bien l'affirmer, ben le jour des comptes, il a la promesse d'Allah qu'il aura des soucis à se faire. Parce que celui qui a vécu sans se soucier des ordres d'Allah ne pourra connaître dans l'au-delà une situation de tranquillité. Donc, notre objectif à nous, à travers, maintenant qu'on complète ce deuxième point parmi les sept personnes qui seront sous le trône d'Allah, pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup là-dessus? Vous avez remarqué qu'on a insisté plus sur la salah que sur les autres catégories. Pour le imam Adil, on n'a pas pris beaucoup de temps. Parce que je ne pense pas que parmi nous, il y en a qui seront rois ou princes ou autres demain. Pas à ma connaissance. Mais on avait dit que ça peut s'appliquer pour un amir. D'accord? Mais on ne s'était pas attardé dessus. Shabun nashafi ta'atillah, on a assez développé quand même. Parce que ça concerne les jeunes. Hein, ceux qui ont moins de 35, voire moins de 40 ans, ils ont toujours la possibilité de se raccrocher à ce wagon hein, qui va amener vers le trône d'Allah. Ça, c'est un des sept wagons. Il essaie de trouver sa place dedans. Mais ça ne concerne pas tout le monde encore. Tandis que la catégorie qu'on a beaucoup plus expliquée et qu'on termine ce soir, l'homme qui a le cœur attaché au masjid, ça concerne tout le monde. Jeune, moins jeune, âgé, chaque personne qui fréquente la masjid peut essayer d'améliorer sa relation avec la masjid. Là, voyez bien les termes qu'on utilise. Chaque personne qui fréquente la masjid peut encore améliorer sa relation avec la masjid. Parce que fréquenter la masjid, on va dire, je vais dire que c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire toute personne qui vient à la masjid fréquente la masjid. Mais pas toute personne qui vient à la masjid a le cœur attaché au masjid. Et pour voir si j'ai le cœur attaché au masjid, mais il faut voir comment les mutaqaddimis, les anciens, les pieux prédécesseurs, eux, ils fréquentaient la masjid. Quelle était la nature de leur relation avec la masjid? Quand les sahaba, quand Abu Bakr al-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, quand les tabi'in, tba'i tabi'in, quand les grands ulama de l'islam, eux, ils venaient à la masjid, c'était un autre level, un autre niveau. Et leur amour, l'attachement pour la maison d'Allah, c'était quelque chose de totalement différent. Mais c'est sur ces personnes-là qu'on doit essayer de calquer notre relation avec la masjid pour se faire une idée. Je ne dois pas regarder celui qui ne vient pas. Il ne vient pas à la main, il vient avec du moment. Moi, je viens les cinq salats, donc c'est sûr que je fais partie de ces gens-là. Non, on ne regarde pas ceux qui sont au-dessous de nous dans la religion. Là, Allah. Dans le dîn, on regarde toujours ceux qui sont au-dessus, ceux qui pratiquent plus, ceux qui ont fait plus d'efforts, ceux qui sont plus, on va dire, sincères, et la sincérité, Allah seul le sait, ceux qui manifestent beaucoup plus de motivation pour pratiquer. C'est ces gens-là qu'on doit essayer d'imiter. Lorsque vous voyez une personne, moi ça reste un principe que j'applique, quand vous voyez une personne, même si tout ne vous plaît pas chez cette personne, mais ne serait-ce prenez ce qu'il y a de bon. On voit parfois des gens qui critiquent énormément. Des gens qui critiquent sur Internet, sur différents supports. Un tel c'est comme ci, un tel c'est comme ça, lui c'est comme ça, il ne faut pas l'écouter, etc., etc. Moi je dis, Yahri, mon frère, sois un peu plus, fais plus preuve de tawadu, d'humilité. Au lieu de passer notre temps à critiquer les gens là, lui, son Bayan, c'est comme ça, lui, c'est pas un moon comme ça, lui, c'est comme ça. Il faut arrêter un petit peu de nous dévorer entre nous. Il y a assez de gens pour nous dévorer, oui ou non? Il y a assez de gens. Kafi wallah. Dans le monde entier, il y a assez de gens pour nous dévorer. Il y a des cannibales, il y a tout. Il y a tout, il y a des... Je sais pas, il faut s'y inventer un mot. Déjà, le mot islamophobe, on n'arrive pas à faire passer. Comment ça s'appelle quelqu'un qui mange un musulman? Herbivore, carnivore, un musulmanovore ou un islamovore. Voilà, voilà, c'est un bid'a filoura. Il y a des islamovores et des gens qui essaient de nous manger. Yakfi, c'est suffisant. Pourquoi on a besoin de se dévorer entre nous? Laissons un peu, on fait ikram, laissons un peu pour les gens. Laissons un peu pour ces gens qui sont affamés, qui prennent de la nourriture, qui les amènera directement vers Nari Jahannam. Sauf si Allah leur a donné la guidée avant ça. Nous, la communauté, on a besoin d'être unis. Il faut arrêter avec les gens qui se tirent dans les pattes, qui se cassent, qui descendent les uns les autres. Ça devient maladif. Ça devient maladif. Ça devient une obsession. Quand je vois dans... Même en métropole, on voit comment... Allah Akbar. C'est pour ça qu'on passe de moins en moins de temps sur Facebook et des trucs comme ça. Quand on voit comment ils se déchirent les uns les autres. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ci. C'est comme ça. Cher Foulan a dit... Oh Allah, Allah. On s'en sort plus. On s'en sort. On se dit... Ben, la Oumma va suivre qui? Il a commencé à voir Mohamed. Il parle bien, je l'écoute. Deux semaines après, on dit que Mohamed, c'est un comme ci, comme ça. Hop, et tout ce que j'ai appris, ce n'était pas bon. Allez, Ishaq est là. On recommence sur Ishaq. Ah non, ben on a dit que lui. Abdullah. Non, Abdullah. Mais après, on suit qui? Autant, il regarde télé. Mais lui, au moins, il est neutre. Allah, on se tient. Donc, ça, c'est waswasa de shaitan. Maintenant, il y a des gens qui, vraiment, ils ont des discours qui tendent vers l'innovation, de la religion, d'aller à mal, et pire encore, d'aller croyances. Là, il faut mettre en garde, ça c'est clair. Mais parfois, je me demande s'il n'y a pas un petit peu, hein, enfin, c'est pas que je me demande, et c'est pas un petit peu, il y a souvent une grande présence de shaitan dans tout ça. Waswasa. Allazi yuwaswisu fi suduri nnas. La plus grande victoire de shaitan, c'est quoi? C'est de provoquer la désunion dans une communauté, de casser une communauté. On a dit qu'on ne veut pas s'éloigner, mais ça c'est important. Quelle était la plus grande victoire de Shaitan d'après vous? La plus grande, d'après toi? La plus éclatante? Quelle est la plus grande division qu'il y a eu de la Ummah dans l'histoire de l'islam? Allah Yashir. Junaid. Comment? Masha'Allah, exactement ça. Le Bapt, exactement ça. La séparation lorsque sunnite et chiite, enfin, lorsque la Ummah s'est divisée en deux. Après les batailles de Siffin et de Ma'arakatul Jamal, lorsqu'il y a eu une scission, une cassure de la Ummah, cassure qui ne s'est jamais refermée, jamais plus. C'était Eid pour Shaitan. Il a utilisé des Shayatin al-Ins. Vous savez, c'est quoi les Shayatin al-Ins? Vous voulez que je vous montre? Des diables parmi les hommes, il y en a. Il y a des êtres humains qui font le travail des Shaitan. Je ne vais pas raconter des histoires personnelles, mais il m'a dit hey, tu connais Bougrécos, tu vois. Un bouga, il dit ça fait sou. Savoir le bouc, on appelle ça qila waqal, hein, colporté. Des gens qui colportent des nouvelles de le but de casser la Ummah. C'est exactement comme ça. Quand ils ont essayé de casser la Ummah, déjà ils ont essayé avec l'époque de Hazrat Uthman, en donnant de fausses nouvelles aux gens d'Égypte, d'Irak et tout, que voilà, Uthman est un tyran. Hein, il faut aller le voir, il faut le renverser, il faut. Ils sont partis une délégation, nombreux, nombreux, beaucoup de gens. Son parti Hazrat Uthman, radiallahu anhu, vous avez dit que voilà, on a entendu que tu es un tyran, tu es un valim, au nom de quoi tu fais ça? Hazrat Uthman, subhanallah, Amir al-Mu'minin, gendre, double gendre, du Prophète sallam, il explique, il arrive à convaincre ces gens, parce qu'il est mukhlis, et il dit la vérité. Les gens sont convaincus, s'excusent et retournent, ceux qui vont en Égypte, en Irak, dans leurs pays différents. En chemin, les munafiqs, les hypocrites, ils voient que leur ruse n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à semer le trouble. Le but, ce n'était pas que les gens arrêtent de faire namaz ou mangent de l'intérêt ou font le zina. Pour eux, ça viendra. Ça vient, ça. Du moment que la Ummah est cassée, il n'y a plus de référent, on ne suit plus Qur'an ou Sunnah, les autres, ça va venir. Les autres péchés, ça viendra. Mais il faut que ce noyau-là soit cassé. Parce que des gens qui suivent un imam ou qui suivent une personne, qui mettent les ordres d'Allah en pratique, c'est des gens qui sont bien guidés. Et quand on est bien guidé, on ne fait pas de bêtises. Quand on est bien lancé sur une route à 110 km/h, vous roulez bien au milieu, vous regardez bien votre chemin, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. C'est quand on commence à zigzaguer, on regarde à droite, à gauche, c'est là. Bref. Donc, quand ils ont vu que cette première stratégie n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez l'histoire? Ils écrivent une fausse lettre, de laquelle ils demandent à ce que cette délégation, lorsqu'ils retournent de leur pays respectif, que le wazir, que le responsable de ces régions-là, les exécute. Et ils font en sorte que ces gens-là, lorsqu'ils retournent, ils surprennent le courrier. Ils voient le courrier, dit quoi? Dit, vous êtes des émissaires de Uthman? Dit oui, Uthman nous a envoyé, donc déposer ça pour vos wazirs, on va dire vos ministres respectifs dans vos régions où vous habitez. Ce qui est écrit dedans, que voilà, moi, Uthman ibn Affan, Amir al-Mu'minin, j'ordonne que lorsque ces gens-là retournent chez vous, vous les exécutez. Parce qu'ils étaient venus pour telle chose. Donnez-leur la mort. Ils sont révoltés. Uthman vient de nous donner la garantie que tout ça c'était faux. Et là, il leur donne qu'on nous exécute. Là, le plan a marché. Ils retournent. Et là, ils ne vont plus discuter. Ils vont directement tuer Amir al-Mu'minin, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Vous avez vu, Shayatin al-Ins, ils ont essayé de provoquer la cassure. Et Uthman savait que ça allait arriver un jour. Parce qu'on avait annoncé qu'un jour, les gens vont le tuer. C'est pour ça qu'il a interdit aux musulmans de prendre sa défense, pour pas qu'il y ait un bain de sang dans la ville bénie de Madina. Ces personnes, munafiq, hypocrites, qui essaient de semer la discorde, quelques temps après, ils réussissent leur coup à Jamal Sifin, ils provoquent la guerre, ils provoquent la bataille alors que les gens n'étaient pas venus pour se battre. Les deux camps, ils étaient venus pour discuter, ils étaient en train de trouver une solution, et eux, ils ont fait en sorte que quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils se sont dit qu'après Fajr, on commence à se battre entre nous, et on dit qu'attention, c'est le camp en face qui attaque, l'autre qui réplique pareil, pour qu'il y ait le chaos. Et lorsque Uthman est sorti, lorsque Ali est sorti de l'autre côté, ils ont vu que les gens commençaient à se battre, mais qui avait donné l'ordre? Sahaba, par centaines, ils sont décédés. Abna ou Sahaba, par centaines, fils de Sahaba, par centaines, ils sont décédés. Cassure de la Ummah. Shaitan était heureux. Il avait ses acolytes, ses shayatines, ces êtres humains hypocrites qui ont fait son travail. Et donc, nous, il faut qu'on essaie d'avancer sans tomber dans ces pièges-là. Donc, c'est de revenir un petit peu à nos moutons. Comment on est arrivé à l'union de la Ummah? Allah Akbar. Puis en tête, mes frères. Comment? Oui, les gens qui colportent, très, Inch'Allah. Mais bon, on essaie de retourner un petit peu plus derrière. L'idéal, c'est de retourner vers le sujet. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est quand on écoute ce genre de programme, principalement ce thème-là, j'essaie d'analyser. Qu'est-ce qui a été dit? Comment est-ce que les sahaba, eux, ils faisaient la salah? Comment ils fréquentaient la masjid? Et j'essaie de mettre ça dans ma vie, avec espoir qu'Allah m'accordera cette place le jour de Qiyam. Avec espoir qu'Allah m'accordera une place similaire le jour du mahshar, et ça doit être l'objectif principal de ma vie. Et ce qu'on avait dit là il y a deux semaines, on s'était arrêté sur un hadith qui expliquait comment les tabi'in, les pieux prédécesseurs, on va les appeler comme ça, les pieux prédécesseurs, parmi les qualités, parmi les signes qui faisaient qu'ils avaient les cœurs attachés au masajid, c'est qu'ils aimaient enchaîner les salats. Innakum lan tazalu fi salati man tadartum as-salah. Ça m'a dit que quand quelqu'un vient une prière, une salat, et qu'il reste à la masjid, et qu'il attend l'autre salat, il reste le dhikrullah, il reste à la masjid, Allah Ta'ala lui accorde les récompenses de leur salat jusqu'à ce que la prochaine salat commence. Et le prophète Ali Salatu Wassalam avait dit également, petit rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois, hadith de Ibn Majah qui est sahih, authentifié par Cheikh Albani. Est-ce que je vous montre une action par laquelle Allah Azza wa Jal pardonne les péchés et une action par laquelle Allah augmente les hasanats, les bonnes actions? Le sahaba dit, oh prophète d'Allah, on veut savoir cette recette. Si quelqu'un, par exemple, il vient et vous dit que voilà, est-ce que je vous donne une astuce pour payer moins d'impôts? Je vous donne une astuce? Non, on va dire, impôt encore c'est quelque chose. Je vous donne une astuce pour payer 50% moins cher aux factures d'eau et d'électricité, c'est garanti. Il dit, ah bon, je paye 200 euros EDF, je paye 80 euros l'eau, ben, si je peux amener 40 et l'autre 100, c'est magnifique. Il dit, en plus, je vous donne une solution également, vous avez des PV, ben, on peut faire sauter ça. Quelqu'un dit, tout de suite, demain je prends. Combien ça coûte votre conseil? Non, c'est gratuit. C'est mon frère, je te dis ça pour toi. Qui c'est qui ne prend pas? Tout le monde voudrait savoir pour mettre en pratique, pour avoir un soulagement. Parce qu'on a vu la couleur, l'argent, on connaît c'est quoi? On connaît comment ça fait mal quand ça sort. Comment ça fait du bien quand ça rentre, comment ça fait mal quand ça sent, d'accord? Et donc, la personne y veut. Mais pareil, quand le prophète alayhi salat wa salam nous dit, je vous explique quelque chose, avec ça, Allah pardonne vos péchés et augmente vos hasanats. Sahaba, ils sont tous, oui, ils veulent connaître. On doit avoir nous aussi cette même motivation. On aimerait connaître également. Le prophète sallam dit des choses simples. Isbar al-wudu, faire les ablutions correctement, même si parfois c'est difficile, fait froid ou autre chose. Kathratul khuta ila al-masajid, marcher en allant à la salah, marcher. Et faire le maximum de pas pour venir à la masjid. Tant que possible, à moins qu'on soit en retard, on habite très loin, tant que possible, venir à la masjid à pied en état d'ablution. Faire le wudu à la maison et venir à pied à la masjid. وانتظار الصلاة بعد الصلاة et enchaîner les prières. Attendre la prochaine salah. Par exemple, de Fajr à Zohar, ça va être dur. Zohar à Asar, ça va être dur. Mais Asar, Maghrib, Isha, je pense, quand on va en Umrah, Makkah, Madinah, on le fait, oui, non. On le fait avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et là, on fait en sorte, midi, on ne mange pas trop, on mange un shawarma, des affaires légères et tout. Et on ne boit pas trop d'eau. Hein, on essaie de garder le bouzou depuis Asar. On fait salat. On lit le Coran, on fait les dhikrullah, si on est à Makkah, on regarde la Kaaba, etc. En Maghrib, Isha, pareil, on fait un petit tawaf, on vient s'asseoir. Mais il y a la motivation, oui, non. Pourquoi ici, on ne peut pas faire? On peut pas dire, il fait tawaf, t'es là, ça n'a pas fait shirk encore. Mais dire que on peut le faire dans ces lieux saints. C'est vrai que là-bas, le cœur est, il y a tafarrur, le cœur est libre. Le cœur, il penche vers l'adoration d'Allah. C'est clair, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est le grand plaisir. Quand quelqu'un il quitte son hôtel après Asar, avant Asar, hein, 20 minutes avant Salat As, il prend tout ce qu'il faut, ses vêtements, son mouchoir, son petit bouteille de l'eau et tout, il va à la haram. C'est pas un bonheur, ça? C'est un bonheur, ça. Il y va, et il sait qu'il va rester jusqu'à Isha. C'est pas comme si qu'il va travailler, ça fait une négociation, ça gagne 2000 euros, ou il ça mange d'un grand restaurant pendant 3 heures de temps, il ça quatre méchants, un grand valiment, il s'en mange à la palmi, il s'en mange je sais pas quoi, il est content, il s'en passe 3 heures de temps, il s'en a bien mangé. Non, non, non. Il y va pour Ibad. Et il trouve un plaisir extraordinaire. Il est heureux. Pareil, un enfant quitte sur le tali, ça va, il marche, il est content. Le cœur léger et apaisé. Ça, c'est une sakina qu'Allah met dans le cœur des croyants. Mais ça, il faudrait essayer de le transposer ici aussi. C'est le même Allah qu'on adore, oui, non. C'est vrai qu'il y a une pression, il y a la famille, il y a les problèmes ici, que quand on est là-bas. Bref, mais il y a bien des moments de l'année, le samedi, le dimanche, où on peut essayer de mettre cette action en pratique. Mais si plusieurs personnes y font ça, et que nous voyons que la masjid devienne vivante, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une motivation? Si je suis tout seul dans la masjid, dans Maghrib et Isha, la seule chose que j'entends, c'est mon ventre qui fait du bruit, parce que j'ai faim. C'est vrai qu'à un moment donné, il va manquer un peu de motivation. Mais si un petit groupe de personnes qui font le niya le samedi, ils essaient sans faire non plus un sec de bidati non plus, des trucs comme ça, mais quelques personnes se disent, ben, le samedi, on essaie de passer du temps à la masjid, de rester. Mais à un moment donné, vous voyez, il y aura une ambiance dans la masjid. Donc ça, ce serait important, nécessaire. Je parle pour moi en premier, chose que je ne fais pas ici malheureusement, mais ce serait bien. Ce serait bien qu'on mette cette action en pratique, intidhar al-salat et ba'd al-salat, enchaîner les salats. Et puis, on a la recette du bonheur. Le trio, c'est quoi? Faire le wudu correctement, quelles que soient les conditions, marcher en venant à la masjid, et rester à la masjid en attendant une autre salah. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas comme ce que le Prophète a dit que je vous donne les recettes là, etc. Ben, ce que vous avez gagné de cette journée ou de ce mois, la moitié donnée fi sabilillah. Ça aurait été plus dur de donner la moitié de ce qu'on a gagné de ce mois-là. Je donne un exemple, en sadaqa. Ça aurait été un peu plus compliqué. On dit que oui, ben là, c'est un peu dur avec les finances et tout. Bref. Mais là, non, c'est une action qui est possible, qui demande un investissement physique, basse. Être présent et faire un mujahada, un effort. Donc, ces gens-là, ils prenaient ça comme un cadeau. Quand ils pouvaient le faire, c'était la plus belle chose pour eux. Ils le faisaient régulièrement. Et la personne qui fait ça, c'est une preuve que son cœur est réellement attaché à la masjid. Et ça, ça fait partie des actions hein, qui sont appréciées par Allah. Ça fait partie des actions qui prouvent qu'on a envie d'avancer. On a envie de faire des efforts. Parce que venir les 5 salats, ça c'est le minimum syndical. Ça c'est notre SMIC, ça. C'est l'obligation, mais c'est le devoir. Maintenant, comment est-ce qu'Allah va distinguer, et Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs, celui qui veut vraiment, il veut avancer plus encore, c'est celui qui va faire des choses en plus. Des choses qui sont en affil, des choses qui ne sont pas obligatoires, mais ça, ça fait partie de ses actions. Et pendant quelques semaines, on avait fait le programme, à chaque fois on répétait à peu près les mêmes choses. Quelles sont les actions qui démarquent un être humain, un musulman? Quelles sont les actions qui démarquent quelqu'un? Quelqu'un se souvient? Mais je n'avais pas posé la question encore. Quel genre de jeûne? Ramadan? Est-ce que Ramadan, ça démarque un musulman? Tout le monde fait Ramadan. Jeûner les 3 jours du mois et encore si la personne peut jeûner le lundi et le jeudi. Ça, ça va le démarquer. Ça prouve. Il montre à Allah, et Allah il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, que moi j'ai envie de m'approcher d'Allah. J'ai envie de faire un effort en plus. Qu'est-ce qu'on a cité encore comme action? Tahajjud, Qiyamul Layl. Ça, c'est une preuve que je suis motivé. Qu'est-ce qu'il y a encore comme action? Rester dans la masjid, si on peut, hein, par rapport à nos occupations. Après Salatul Fajr, et rester dans Dhikrullah. Faire les Adhkar Masnoun jusqu'au Shuruq, Ishraq, et faire les Rak'ah d'Ishraq. Belle action qui prouve que je suis motivé, j'ai envie de m'approcher d'Allah. Donner sadaqa tout le temps, tous les jours. 1 euro s'il le faut, 50 centimes s'il le faut. Mais donner régulièrement sadaqa. Et si on n'a pas trop les moyens pour donner sadaqa, donner à manger. Ça, c'est important. Samedi, on a fait une explication avec les élèves à Madrasa, uniquement là-dessus, donner à manger aux gens. Et les gens avec lesquels on fait cours, c'est des personnes en général de population assez pauvre. Donc, on comprend, c'est pas avec ces gens-là qu'on va dire donner sadaqa, c'est un peu décalé. Mais donner à manger. Je dis, vous mangez, oui ou non? Il n'y a pas un jour que vos parents vont vous dire que là, ces périodes difficiles, on ne mange rien. Ça n'existe pas. Possible qu'il va vous dire qu'on ne vous donne pas d'argent de poche ou alors on ne vous achète pas ça. Oui, mais il n'existe pas un parent qui dit à ses enfants que aujourd'hui, je n'ai pas pu travailler, il n'y a pas à manger. Ça n'existe pas, ça, alhamdoulilah, ici, il n'y a pas. Donc, vous mangez. Donc, dans ce qu'on mange, donnez quelque chose aux gens qui sont plus nécessiteux que nous. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, on avait déjà rappelé mille et mille et une fois, bien avant, quelle est la meilleure façon de donner à manger aux gens? De donner ce qu'on aime. لَنْتَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. On n'atteindra jamais la piété tant qu'on ne donnera pas de ce qu'on aime. Il y a ce que vous allez manger, le repas de ce soir. Si quelqu'un n'a pas encore dîné, le repas que vous allez prendre dans un instant, avant de donner à madame, aux enfants, avant de passer à table, on prend une portion, on donne un pauvre. Pas le repas du lendemain. Non. Ce n'est pas un péché, hein? Mais ça, ce n'est pas une sadaqa, ça. C'est-à-dire, soit je jette, soit je donne à ce pauvre. Il y a quelque chose de vertueux dedans? Comme si j'avais le manger, j'ai jeté la poubelle. Ah, un pauvre, tiens, mais ça a jeté, mais où il est là? Mais il jette de l'autre bouche. C'est exactement ça. Il n'y a pas de mujahada là-dedans. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de sacrifice. Et Allah accepte, Allah est tayyib, il accepte que ce qui est propre, ce qui est pur. Donc ça, c'est une action que tout le monde peut faire. Il faut encourager, mes chers frères, encourager ma maman à la maison, madame à la maison, si on est marié, etc., de donner à manger aux pauvres. Et de cette façon-là, on emmène une ambiance de din dans la maison, une ambiance de partage, de muhabba, que dans la maison, si on ressent, c'est quoi la umma? La umma, c'est cette personne qui est dehors aussi. Même si la personne n'est pas forcément très pauvre, pas forcément que c'est un SDF, mais c'est quelqu'un qu'on connaît, à la limite, si on ne voit pas de pauvre en ce moment, un voisin. Donner manger à un voisin. Mais moi, je prends. Si quelqu'un fait quelque chose après ça, je prends. C'est-à-dire, ça, c'est un geste important. Ça, c'est quelque chose de très important de faire participer la famille dedans. Il faut en sorte qu'on tient, on donne aux enfants, on dit, allez, donne ça, la personne qui est en bas. Que l'enfant, quand il grandit, il prend l'habitude, dit, moi, il saura quand il sera grand que quand j'étais petit, tout le temps, papa m'envoyait donner à manger à tel monsieur qui habitait là, à telle personne qui dormait dans la rue, à tel voisin. Ça deviendra une habitude. Et ça, c'est les fruits de tarbiya, les fruits de l'éducation. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important également. Donc ça fait partie des actions qu'on peut faire régulièrement et montrer à Allah notre motivation. Et le dhikrullah, en permanence, tant que possible. Écoutez moins Radio Freedom, écoutez moins de bêtises et faire plus de dhikrullah. Quand on est sur la route, quand on est en embouteillage, ici à La Réunion, on a souvent la chance d'avoir des embouteillages. On essaie, même si on n'a pas forcément un truc à la main, on essaie. Istighfar, salatu ala nabi, comme on dit Durud Sharif, on essaie dans le maximum de fois de meubler notre temps par le dhikrullah. Toutes ces actions-là vont élever notre grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le hadith de base, quand quelqu'un fait un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers lui. Montrer à Allah qu'on est motivé et Allah ta'ala va nous ouvrir les portes de l'acceptation. Donc, pour terminer les quelques points concernant ce chapitre, parmi les qualités de ces gens qui ont le cœur attaché au masajid, leur attachement pour le premier rang, le saful awwal. Ils en avaient expliqué, certains muhaddithin, certains anciens, comment ils étaient attachés au takbir oula. Maintenant, 1 ou 2 hadiths spécifiques concernant le premier rang. Le prophète dit, là où ya'alamun nas, en français, si les gens savaient quelle vertu il y a dans le premier rang et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité d'y aller, hein, je traduis approximativement, si ce n'était qu'en rampant, l'astahamou, les gens iraient en rampant. Si les gens ils savaient quelle récompense il y a dans le premier rang, et que la seule possibilité d'y aller, c'était d'y aller en rampant, l'astahamou, ils le feraient quand même. Les gens, ils seraient allés en rampant au premier saf, tellement il y a des vertus, tellement il y a des récompenses dans le premier rang dans la salat al-jama'a. Le prophète dit dans le hadith, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saf al-awwal » C'est-à-dire, le Nabi aussi, Allah et ses anges envoient les salutations pour les gens qui sont dans le premier rang. Hadith d'Abu Daoud et d'Imam Ahmed authentique. Le prophète dit également, « Law ta'alamuna » hadith proche du premier, « Law ta'alamuna ma fi saf al-awwal » Ma kanat illa qur'a. Si vous saviez qu'est-ce qu'il y a comme récompense dans le premier rang, ben, on aurait permis aux gens d'aller au premier rang. Il aurait fallu faire tirage au sort pour laisser les gens aller au premier rang. Imaginez, chaque mu'min qui prend conscience du premier rang, et imaginez, ben, Yamla, avant Salat al-Isha, 10 minutes avant, il est obligé de caler les gens dehors, dit non, ben, chacun son tour. On fait tirage au sort pour voir qui c'est qui peut aller au premier rang. Voilà, numéro 1. Qui c'est le numéro 1? Bah, yawale. Numéro 15, numéro 20. Si seulement c'était comme ça. Allah musta'an. Pour en dire que si les gens savaient, il aurait fallu tirer au sort pour permettre aux gens d'aller au premier rang. Sinon, les gens, ils se seraient battus pour être au premier saf lors de l'accomplissement des salats. Donc, ça, c'est un signe que notre cœur est attaché au masjid, que la personne essaie au maximum de fois d'être au premier rang. Avant-dernier point. Parmi les signes également d'un homme, d'un musulman qui a le cœur attaché au masjid, la personne qui est régulier dans ses dhikrullah après chaque salat. Régulier dans ses invocations après chaque salat. Parce qu'on dit, hadith qu'on avait, je pense, cité une fois, « Man sabbaha lillahi » celui qui fait le tasbih, subhanallah, 33 fois après chaque salat, « Alhamdulillah » 33 fois, « Allahu Akbar » 33 fois, pour compléter « Tis'a wa tis'un » 99, ensuite, la personne dit « waqala tamamul mi'a » et ensuite, la personne dit 100 fois « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir » ce qu'on appelle nous ici le quatrième calément, d'accord. Donc, celui qui lit 33, subhanallah, alhamdulillah, akbar, et qui ensuite lit 100 fois ce qu'on vient de réciter « Ghufirat khatayahu wa inkanat mithla zabadil bahri » Allah Azza wa Jal pardonne ses péchés même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume des mers. Quand vous allez au bord de mer, vous voyez la mer bat. Hein? Quand les vagues arrivent, vous voyez l'écume. Autant d'écume qu'il y a. Est-ce que quelqu'un peut compter combien de petites bulles il y a? Malade. Ça, c'est des choses qu'on ne compte même pas. Mais si quelqu'un se présente devant moi avec autant de péchés qu'il y a d'écume dans la mer, et il fait ses a'mal, Allah il pardonne ses péchés. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce que Al-Fasan nous a dit qu'il faut investir 50% de nos biens, encore une fois, je reviens dessus, après chaque salat, donner sadaqa tel montant, après chaque salat, celui qui donne l'équivalent d'un chameau en sadaqa, il aura... Là, ça aurait été dur. Là, on aurait dit que oui, mais c'est une religion pour des gens qui ont les moyens, pour des gens qui peuvent le faire, nous, on ne peut pas. Non, rester assis, combien de temps ça prend? Vous savez combien de temps ça prend? Ça va prendre 20 minutes maximum. Mais bon, subhanallah, c'est vraiment subhanallah, en pensant toute louange, pureté à Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ressentir Allah est le plus grand. Parce que non, c'est pas un dhikr en perroquet, mode perroquet, non. En mode tawadu', humilité, en mode khushu', dévotion, et en mode musulman intelligent qui comprend ce qu'il est en train de dire. Et qui lit donc 100 fois cela. Celui qui peut le faire après chaque salat, qu'est-ce qu'il a eu comme trésor? Hadith d'Imam Ahmed, ça, et d'Imam, hadith de Muslim, hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Qui c'est qui fait niyat, inshallah, ne serait-ce une fois par jour, un salat par jour de le faire, inshallah. On fait niyat, inshallah. Et celui qui ne peut pas faire de la semaine, le week-end. Ou alors, en marchant, parce que le hadith ne précise pas, il y a dans certains hadiths où on précise que la personne doit rester assise. Et ça concerne le fait de lire 10 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Après la salat al-fajr, Allah lui accorde, si je ne me trompe pas, 10 récompenses, pardonne 10 péchés, il lui accorde. Il y a des vertus en nombre décimal. Celui qui lit après Salatul Fajr 100, et le hadith, hein, très précis, précise même que avant que la personne ne déplie ses jambes. C'est-à-dire que la personne reste assise en place. Quand l'imam a fini, salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, fait les adhkars connus, astaghfirullah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, et que la personne lise 100 fois, 10 fois, basse, 10 fois, le quatrième kalima, ensuite il dit Allahumma la mani ali ma'atayt, wa la ma'atay lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jadd min kaljal. Ce hadith-là, on précise que la personne doit rester assise au même endroit. Même pas qu'il se déplace, qu'il va s'appuyer contre un mur. Non, il reste là et qu'il lise. Tandis que celui qu'on vient de lire, il ne dit pas ça. Donc, on peut espérer que quand je sors de la masjid, même si je suis pressé, le temps que je marche pour aller chez moi ou pour prendre ma voiture et retourner en voiture chez moi, mais j'ai le temps de lire tout ça. Plutôt que dès qu'il sort de la main, regarde combien WhatsApp m'a fait gagner là. Ok, il y en a déjà 4. Qui s'appelle à moi? Combien de notifications? Combien un SMS? D'accord? Combien, etc. C'est ça notre vie, Wallah Musta'an. Notre vie, c'est dedans. Notre vie, c'est dans ce petit écran. C'est dans le moyen écran, l'ordinateur, et dans le grand écran, à la télé. Ça, c'est nos piliers, c'est Allah Musta'an. On est absorbé dedans. On vit pour ça. Et ça, et parfois même, ça prend la place de la famille. Ça, c'est un conseil qu'on donne aux couples, aux jeunes mariés. Attention à ce fléau. Le fléau de l'Internet, de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Utilisez-le de manière intelligente. Ça ne doit pas asphyxier la vie familiale. Je me rappelle, une personne m'avait dit une fois, fièrement, dit que moi, dès qu'il rentre à case, il connecte direct sur Facebook. Un bouc marié, il a deux enfants. Dès qu'il arrive à case, son travail, hein, depuis le matin, en tout cas, mon cœur me dit, ben, allez, embrasse votre madame, demande si ça va, allez voir quoi elle a fait pour manger, si on l'a faim. Mais un signe humain, dit, ah, moi, dès qu'il arrive, direct sur Facebook, voir quoi elle arrive, quoi elle a fait. Donc ça, il faut faire attention. Bref, si au lieu de passer autant de temps dans les vérifications, notifications, etc., on sort de la masjid, si on n'a pas pu rester, ben je lis mes adhkars jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et si je n'ai pas pu compléter, ben Allah, il connaît que mon intention était de le faire. Et Allah est tellement généreux que s'il sait que quelqu'un voulait le faire, mais qu'après il y a un empêchement, ben Allah, il est capable de donner la récompense. Mais ça, c'est très important pour remettre nos compteurs à zéro et réguler. Et Allah seul sait comment on en a besoin. On a besoin, on n'a pas besoin, on a dit ça. Wallahi, on a besoin. Remettre ce compteur à zéro. D'un trajet de votre maison jusqu'à votre lieu de travail, combien de péchés on fait? Combien de péchés on fait avec les yeux, avec les oreilles, avec la bouche? Combien on fait par jour? Si on avait un compteur, à la fin de la journée, si on pouvait voir sur le plan quantitatif, on serait choqué. Tout ça j'ai fait? En une journée, c'est moi ça? Mais ça c'est péché la réunion ça. Ça c'est moi tout seul? Ya Allah! Ben, en un an, en une vie, c'est quoi? Et Allah nous a donné ce genre de cadeau, ce genre de a'mal facile, mais qu'on doit faire avec un peu d'effort, de dévotion, qui nous permet de remettre, incha'Allah, les compteurs à zéro. Et bien sûr, les ulama disent que les péchés qui sont pardonnés sont les petits péchés. Les kaba'ir, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui a fait un péché grave, adultère, ou autre chose, ça, il y a d'autres conditions pour qu'Allah pardonne, bien sûr, ces péchés. Ah. Je pense que c'était à peu près les derniers points. Et puis, il y a certaines anecdotes de Jean Pieux. Allahu Akbar, comment ils aimaient faire la salat en jama'at, comment ils aimaient la masjid. Il y a l'histoire de Al-Aswad, des chouyours d'Imam Bukhari. Il dit que « Kana idha fatathu al-jama'a » Oui, il dit, lui, si ça arrivait qu'il arrivait dans une masjid où la salat était finie, ben, il faisait le tour de la ville pour trouver une autre masjid pour pouvoir faire la masjid en jama'at. Bon, là on parle à une époque où il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'horloge, donc les masjids ne sont pas synchronisés. Il est possible que lui commence un peu plus tôt, l'autre plus tard. Et donc cette personne, ce cheikh, il dit que quand il arrive dans un endroit et que la salat est terminée, c'était une catastrophe. Il courait pour essayer d'arriver à un endroit où il y a encore possibilité de faire namaz en jama'at. C'est un peu comme quelqu'un qui, je ne sais pas moi, vous allez prendre l'avion, vous êtes Dubaï, prendre l'avion pour aller Jeddah, vous avez votre ihram, vous avez votre visa, et qu'une porte s'est fermée. Vous savez qu'il y a 3-4 gates pour rentrer. Ben, une s'est fermée, vous courez ailleurs, ben, je ne peux pas rester là. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de gagner ça. Pour eux, c'était sa salat en jama'a, c'est comme ça. En plus, l'exemple que j'ai cité, c'est bien, hein, d'accord. Mais on peut parler de dunya. Pour eux, rater namaz en jama'a, c'est une catastrophe. Il faut trouver absolument une solution de rechange pour que la salat ne soit pas accomplie individuellement. Abu Darda, radiallahu anhu, il a l'habitude de dire à son fils, « Ya Bounay, oh mon enfant, hein, et ça c'est important. il prenait son fils, s'asseyait avec lui, il lui donnait les nasiha, les conseils. Il dit, oh mon fils, liyakun al-masjid baytuk, fais en sorte que la masjid devienne ta maison. Ça, c'est un père qui dit ça à son fils. Nos jours, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Maman, il travaille bien l'école. Il faut réussir. Regarde, donc là, le chemin, clochard. Pas travailler, Gatali Aster. C'est ça, faire entrer Dounia dans le cœur de l'enfant. C'est, ce sont des conditions de réussite, je ne dis pas non. Mais on le sensibilise uniquement sur sa réussite professionnelle, ses études, etc. Il faut un jour que tu aies un bon métier, il faut que tu gagnes bien ta vie, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est vraiment le discours. Et on se sent responsable quand on fait ça. D'accord? Abu Darda, il prend son fils, il dit, oh mon fils. Il ne lui dit pas, travaille pour devenir un homme important, un homme riche. Non, il dit que fais en sorte que la masjid devienne ta maison. Il dit ça à un enfant, fais en sorte que la masjid devienne ta maison. Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, innal masajida buyutul muttaqin. Les mosquées, les masjids, c'est les demeures des gens qui ont la taqwa. Et il veut faire passer ce message à son fils. Mon enfant, prends ce chemin. J'aimerais que dès maintenant, tu prennes ce chemin, que ton cœur reste attaché à la masjid depuis ton jeune âge. Fais en sorte que la masjid, ça devienne comme chez toi. Parce que le prophète m'a dit que celui qui... Il dit que le prophète m'a dit que la masjid, c'est la maison des gens pieux. Et « Faman kanatil masajidu buyuta » ou celui dont la mosquée est comme sa maison, « Allah azza wa jal dhamman allahu lahu » Allah ta'ala lui donne la garantie de la rahma « wal jawazi ala sirati ila jannah » Celui qui a fait de la masjid sa maison, son cœur est devenu attaché. On pourrait dire que ça, c'est la conclusion de notre chapitre. Celui qui est devenu vraiment attaché à la masjid, il a la garantie. Daman. Daman, c'est quoi? C'est une promesse, une garantie de la part d'Allah qu'Allah lui accordera sa rahma. Ça, c'est la meilleure des choses, qu'on obtienne la bénédiction d'Allah dans les deux mondes. Et qu'Allah lui donne la garantie al-jawaz al-sirat. Qu'Allah lui fera traverser le pont, le sirat, jusqu'à entrer au paradis. Celui dont le cœur est réellement attaché au masajid. Voilà. Hadith également qui est authentifié. Donc ça, c'était le conseil d'un papa, Abu Darda, à son fils. Et ça doit être également notre tarbiya. Si on se pose des questions, pourquoi est-ce que nos enfants, ils grandissent tord, ils poussent tord? C'est pas uniquement l'environnement. Oui, il y a tout ça. Il y a le facteur extérieur, comme on expliquait plusieurs fois. Il y a des choses qui nous échappent parfois. L'éducation, on le fait, mais la fréquentation, c'est compliqué. Quand ils sont au collège, c'est difficile. Quand ils sont au lycée, c'est très compliqué. C'est quasiment plus rattrapable, etc. Mais après, il y a ce qu'on véhicule comme message à la maison aussi. Si mon fils voit que mon papa, que le papa, il pense qu'au dunya, qu'à la réussite, qu'au diplôme, qu'au travail, ben, le jour où on lui parle de dîn, pour lui, ben, c'est accessoire. Pour lui, la religion sera synonyme de Ramadan. Ramadan, religion, oui. Après, c'est fini. C'est le mois de la religion et puis c'est le mois de la vie normale. Tandis que si on a un discours depuis... Le hadith dit, Abu Darda dit à son fils, c'est-à-dire un enfant, dès le plus jeune âge, le discours va dans le sens du spirituel, ben l'enfant, il va retenir ça. Son cœur va être formé dans ce moule et il aura l'objectif de concrétiser les paroles de son père, les nasihat de son papa, de réussir dans le din, d'avancer, d'obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre histoire, relation papa-enfant. Histoire, bon là c'est des émirs, je ne sais plus c'est sous quel empire, c'est les Omeyyades ça. Abdelaziz ibn Marwan, il avait envoyé son fils, qui s'appelait Umar, donc on est dans l'empire Omeyyade, à Madina. Yata'addabu biha, hein, ça c'était une habitude des anciens, envoyer les enfants avec des gens, pour faire leur adab, pour leur apprendre l'éducation. Avec des gens sévères qui veulent apprendre les bonnes manières, d'accord? Et une personne, oui, la personne qui était chargée de son éducation s'appelait Salih ibn Kisan. Salih ibn Kisan qui était chargé de superviser l'éducation de cet enfant, du fils d'un des émirs, on va dire. Et il voit une fois l'enfant arriver à la salah en retard. Il voit l'enfant arriver à la masjid en retard. Il dit, ma habasa, qu'est-ce qui t'a retenu? Il dit que c'est cette... Il y avait une servante, on va dire une personne, qui était à son service, hein, qui s'occupait de lui pour le bain, pour l'habiller et tout et tout. Ça prouve que c'est un enfant, il est encore petit. Il dit qu'elle est en train de peigner mes cheveux, de me préparer. Et c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Et il lui a fait des reproches, il dit, par rapport à ça, tu es arrivé en retard. parce que tu avais besoin de quelqu'un pour t'aider, pour peigner tes cheveux, et c'est ça qui t'a retardé pour la cela. Il a immédiatement écrit un courrier à son père. Le père, il pourrait se dire que oui, mais lui, c'est qui? Ça, c'est mon fils, fils d'Émir. Il n'a pas à me faire des remarques. Le père, il sait qu'il a confié l'éducation à cette personne. Et le père, lorsqu'il a reçu ce courrier, il a envoyé quelqu'un porter le message à son fils. Il dit que tant que tu ne te rases pas la tête, je ne te parlerai plus jamais. C'est tes cheveux. C'est à cause de tes cheveux que tu as raté une salat. Non, pas raté. À cause de tes cheveux que tu es arrivé à la salat en retard. Parce que tu voulais que quelqu'un s'occupe de toi, peigne tes cheveux, etc., etc. Ben, tu te rases la tête maintenant. Tant que tu ne rases pas la tête, ton père ne t'adressera plus jamais la parole. Parce que c'est ça qui t'a retardé. C'est ça qui t'a empêché de venir à l'heure à la masjid. Ça, c'est le tarbiya. On va dire qu'on va faire la même chose. Mais je veux dire que les priorités, les principes. De nos jours, Allah Musta'an, comme on l'avait déjà dit, les parents défendent leurs enfants. Ils prennent la défense. Combien de collègues qui me disent que ben, ils ont essayé de voir des parents pour mettre en garde, attention à ta fille, elle est avec des garçons, fait des choses pas bien, ou ton fils, etc. Mais il y a des parents qui se disent que ça c'est mon problème. C'est pas où le papa à le moment, c'est moi. Mes enfants ils réussissent. Il a eu son bac, il a eu son diplôme, il réussit. Après, il fait ce qu'il veut, qu'il s'amuse, il a le droit de se détendre. Parce que, vous voyez la priorité, c'était où? La priorité, c'est qu'il ramène du résultat, il ramène des bonnes notes et des diplômes qui prouvent qu'il va réussir dans ce dunya. Le reste, c'est pas grave. Le reste, laisse-le s'amuser, c'est un jeune et tout, il faut Allah musta'an. Nous, on est prêts à défendre nos enfants dans le haram, alors que nos pieux prédécesseurs, ils repoussaient leurs enfants s'il y avait un petit manquement dans quelque chose qui n'était même pas obligatoire, c'est-à-dire pour son âge, venir s'entendre jama'a. Ça, c'était l'éducation. Ça permet à l'enfant de comprendre que ce qu'il a fait là, c'est très grave, extrêmement grave, ce qui fait qu'il ne répétera plus jamais l'erreur. Et quand il va grandir, ça va le marquer. Ça va rester ancré dans son esprit que un musulman ne doit pas venir à la salat en retard. Autre anecdote, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ça c'est adib. Il était amir al-mu'min, il pouvait se permettre. Pour la salat al-fajr, il vérifiait que ça est là, que ça n'est pas là. Et s'il y a quelqu'un qui n'était pas là, il allait le voir. Bye, saute, papa, bye. Ou saute, nama fajr. Une fois, il cherche les gens. Omar, il ne trouvait pas Suleyman ibn Abi Huthma. Je ne prononce peut-être pas bien le nom. Une personne qui s'appelait Suleyman, radiallahu anhu, il n'était pas là, salat al-subh, nama fajr. Et la maison de cette personne qui s'appelait Suleyman était entre le souk, entre le marché, le bazar et la masjid Nabawi. Et Omar il y va. Après le salat, il y va. Il va voir cette personne et il trouve une dame. Je ne sais pas si c'est sa maman ou alors. Ah, Oumé Suleyman. Il trouve la maman de cette personne qui s'appelait Suleyman. Il dit Lima. Non, pas Lima. Il dit Lam ara Suleyman fi subh. Il dit comment? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ton fils à la prière de Fajr ce matin? Il pouvait se permettre, il était Amir al-Mu'minin. Ce jeune n'était pas là. Il va voir la maman, il dit, pourquoi est-ce que ton fils n'était pas là pour la prière de Fajr? Faqalat, qu'est-ce qu'elle va dire d'après vous? Allah, cher, il connaît. Innahu bata yusalli, faghalabathu 'aynahu. Il a dit, toute la nuit, il a passé dans Qiyamul Layl, Tahajjud. Mais à la fin, il s'est endormi. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire la salat en congrégation. Ce n'est pas qu'il a joué PlayStation toute la nuit. Hein. Ce n'est pas qu'il avait un tout à noix PSP. Ce n'est pas qu'il avait un tout à noix Call of Duty. Tout le temps, j'oublie ce nom. Ce n'est pas qu'il a joué Call of Duty avec toute camarade. Non. Ce n'est pas qu'il avait Final Champions League ou je ne sais pas quoi. Là, wallah, il a passé sa nuit à faire Qiyamul Layl, Tahajjud, Ibadah, toute la nuit. Ça, c'était Ahwal. Ça, c'était la situation de ces gens. Et à la fin, il s'est assoupi. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir à la masjid. Omar dit, je préfère qu'une personne vienne à la salat en jamaat plutôt qu'elle fait tout ça. Venir à Namaz Fajr en jamaat, c'est mieux que passer toute sa nuit dans le Qiyamul Layl, le Tahajjud, dans le Dhikrullah. Ça, c'était l'importance que les sahaba donnaient à la masjid. Il ne passait pas par quatre chemins, il va voir directement la personne pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à Namaz Fajr. Une autre anecdote encore, avec Omar toujours, radiallahu anhu, quelqu'un qui n'est pas là à Namaz Fajr. Il dit, si on retrouve le nom, Non, il n'y a pas le nom. Il dit, où est-ce que tu étais? Il dit, Kuntu maridan, j'étais malade, etc. Et un man avait envoyé quelqu'un pour demander à la personne. Et la personne était venue, il s'est déplacé, il dit, Omar, je n'étais pas venu à la salatul fajr parce que j'étais malade. Et il dit que, je t'explique bien, fa'in kunta kharijan ila ahadin, fakhruj lis salah. Il dit que, mais je suis venu te voir pour t'expliquer. Un man dit que non. Il dit, si tu es malade et que tu peux ne serait-ce sortir une seule fois, sors pour aller à la masjid. Même pas pour venir me voir ou autre chose, sors pour aller à la masjid. Et là, on voit vraiment la relation entre le serviteur et Allah. C'est pas la relation entre le serviteur et son roi, non. C'est pas comme mal il veut que les gens viennent le voir, c'est pas ça qui l'intéresse. Il dit que si tu peux faire un petit effort, sortir un petit peu, va à la masjid, basse. Fais pas d'autre chose. Que la personne construise sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième anecdote, toujours avec Omar radiallahu anhu. Il y avait un sahaba qui s'appelait Saïd ibn Yarbou'a. Je ne sais pas si c'est sahaba ou tabi'in d'ailleurs. Et il a perdu la vue. Il est devenu aveugle. Et qu'Allah nous protège. Omar radiallahu anhu est parti le voir. Fa'azzahu bidihabi basar. Il est parti l'encourager, le soutenir, on va dire moralement, hein, par rapport à ça. Amir al-Mu'minin, hein, il va voir le citoyen de base pour l'encourager. Il l'encourage, mais après il dit que, attention, la tada'a al-jum'a wa la salat fi masjid al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dit que malgré ta cécité, n'abandonne jamais namaz jum'a et n'abandonne pas une prière en congrégation dans la masjid nabawi, d'autant plus que tu habites à Medina. N'abandonne pas une masjid et une salat en jama'at, en congrégation. Personne dit, laysa li qa'id. Dit, je suis aveugle maintenant, ô amir al-mu'minin, j'ai personne pour m'amener. Omar dit, فَنَحْنُ نَبْعَثُ إِلَيْكَ بِقَائِدٍ. On va trouver quelqu'un. Et Omar a nommé un enfant, un jeune, qui tous les jours, cinq salats, allait le chercher à sa maison pour l'amener à la masjid et le ramener chez lui. Parce que pour Omar, un musulman qui se détache de la jama'at, c'est une perte. Lui, il perd le contact avec la communauté et la communauté perd quelqu'un aussi. Parce que dans la fréquentation de la masjid, il y a la salat accomplie en congrégation, mais il y a également l'esprit de jama'a, l'esprit de groupe qui s'installe. La solidarité qui est censée se mettre en place quand tout le monde se retrouve ensemble dans la masjid. C'est pour ça qu'une personne qui ne fréquente plus la masjid, c'est une perte pour la umma. C'est pour ça qu'Omar, en plus des vertus, il voulait que les gens fréquentent et restent attachés à la masjid. Parce qu'après une personne, peu à peu, un shaitan, il fait son travail. Personne ne commence à se dire que, écoute, maintenant j'ai déménagé, j'habite loin, je ne fais pas namaz à la masjid. Peu à peu, il commence à dire que tel namaz c'est dur pour venir à la masjid, parce que namaz sahur c'est trop loin pour venir, pour aller au travail. Peu à peu, Shaitan va faire son travail, va grignoter un namaz. Après, il y aura deux namaz qui seront évidents pour lui. Quand Shaitan a fait intégrer que zahur tu peux faire chez toi parce que entre le temps que tu sors du travail, manger et repartir, c'est trop long, il y a trop peu de temps. S'il l'a fait intégrer ça, il pourra le faire intégrer par la suite namaz Isha. Que tu sors du travail à 19h, tu arrives chez toi, tu manges, tu as la famille, tu as les enfants et tout. Si tu repars en amas, tu rentres, il y a une coupure, tu ne vois pas les enfants, il va le faire intégrer cette deuxième salat également. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne ne vienne plus masjid. Et quand Shaitan arrive à détacher quelqu'un de la masjid, il va procéder à une autre étape. Faire en sorte que la personne commence à abandonner ses salats. Tu es trop fatigué là, va dormir. Tu feras kaza après, tu remplaceras. Ça, Shaitan, il est habile dedans, mes chers frères. Pour ça qu'il faut fixer l'objectif de ne rien céder, jamais céder de nos acquis. Parce que Shaitan, quand il voit que vous avez fait un pas en arrière, il va travailler, creuser sous ce pas où vous avez levé un peu le pied pour vous engouffrer, pour vous faire perdre tous les efforts que vous avez pu cumuler, bidnillah, durant des années. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il était amir al-mu'minin, le matin, hein, il sortait, il criait derrière, As-salah, as-salah, yuqidhu al-nas li salat al-fajr. Tapait, il criait, les gens, salah, salah, venez accomplir la salah. On va dire, c'est amir al-mu'minin, bien sûr, pays musulman, bien sûr, on ne va pas mettre ça en pratique, mais ihtimam, l'importance de donner as-salat al-jama'a. Je rappelle, quand j'habitais à Medina, j'avais un voisin, ben, quand j'ai namaz, je puis se sonnerait pour un petit coup, ça va. Peut-être qu'il n'a pas levé. Mais bref, c'est-à-dire, Amir al-Mu'minin, il montre l'importance de la salat pour toute personne. Impensable qu'une personne n'accomplisse pas la salat en congrégation. Encore une petite histoire. Nafi', il rapporte d'Ibn Umar, radiallahu anhu, dit que Ibn Umar, lorsque s'il arrivait par accident qu'il ne pouvait pas faire le Isha en Jamaat, Ahya Baqiyata Laylati. S'il arrivait que Ibn Umar ne pouvait pas faire la salat Isha en Jamaat, il passait la nuit en Ibadah jusqu'au Fajr, parce qu'il avait des remords. Il voulait rattraper. Parce que vous savez que le Prophète a dit que celui qui fait la salat Isha en Jamaat, en congrégation, Allah lui accorde la moitié de la nuit en Ibadah. Et celui qui fait le Fajr en Jamaat, Allah lui accorde l'autre moitié de la nuit. Donc, la personne qui fait Isha ce soir et qui demain, Inch'Allah, il fait Fajr en Jama'ah, Allah lui accorde la nuit passée en récompense, la nuit passée en Ibadah. Donc, pour lui, c'est une catastrophe, il a perdu ça. Excusez-moi, l'exemple est décalé. Imaginez que vous avez votre ESTA, hein, ça finit dans 10 jours. D'accord? Vous avez le STA, vous pouvez juste déposer 3 papiers, vous gagnez 300 euros. D'accord? La personne, par négligence, le dernier jour, il a oublié. Comment il a déremonté pour 10 minutes, il a fermé le bureau. 300 euros, mais il gagne un chariot courant, un Leader Prince, un Carrefour. Parce qu'il a compris que 300 euros, ça lui apporte quoi? Il sait c'est quoi? Il a des remords, comment j'étais négligent, pourquoi j'étais bête, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû attendre, parce qu'il connaît qu'est-ce qu'il a perdu. Ibn Umar, s'il paie un namaz Isha en Jamaat, il sait qu'est-ce qu'il a perdu, et il va faire toute la nuit Ibadah pour essayer de rattraper ce qu'il a perdu. Ça, c'était iman des sahabas, ça, c'était priorité des sahabas. Pour eux, c'était ça le plus important. Maintenant, petite mas'ala, Ibn Umar le faisait, c'était une action personnel. Il le faisait pour lui. Les gens ont rapporté, sa femme certainement, ses enfants. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une sunna. Ça, il faut bien faire attention. Et de nos jours, on a tout mélangé. Quand on dit que ce qu'on appelle ici un bouzouk, un homme pieux, il a fait telle action, ben, on n'a pas compris qu'un homme pieux, il fait une action. Mais il l'a fait pour lui. Il n'a pas instauré l'action. Mais nous, ce qu'on a compris, c'est que tel monde, il faisait ça, bon, tout le monde fait pareil. Mais c'est là qu'on transforme une action personnelle en bid'a. Et pire encore, on va faire cette action et on va le faire passer avant la sunna. Combien de personnes, on va répéter tout le temps les mêmes choses, combien de personnes ne font pas les adhkar masnoun après cela et ils font autre chose. Ils font d'autres actions qu'ils ont vu un homme pieux tel endroit, ils le faisaient, ils le font. Et du coup, ils abandonnent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les adhkars qu'on a cités tout à l'heure, les autres adhkars que le prophète faisait, il lisait régulièrement après chaque salat. Ça, c'est extrêmement lourd en conséquence, d'abandonner une sunna pour ce qu'un homme faisait. Moi, par exemple, je peux faire une action personnelle. Je ne sais pas, moi, par exemple, je peux me fixer comme objectif que tous les matins, en allant au travail, je passe une demi-heure sur la route, ben, tous les matins, pendant ces 30 minutes-là, je lis « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » pendant 30 minutes, ce qui me fera 3000 fois, par exemple. Hein? C'est un exemple, d'accord? Ben, si quelqu'un à côté de moi, il voit que je fais ça, ça ne veut pas dire que lui aussi, il faut il fait, l'autre il fait. Non, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire moi-même. Mais ça ne doit pas devenir une sunna pour les autres personnes et on ne doit pas substituer la sunna à ce genre de pratique. Et ça, c'est l'erreur de laquelle beaucoup de gens ils sont tombés dans notre communauté ici. On voit les gens après ça, ils font ça. Pourquoi ça ne l'a pas fait? Il y a eu un homme qui a fait. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde faut faire. Vous faites ce que le prophète a fait, c'est ça la sunna. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Vous aimez Allah? Qui n'aime pas Allah ici? Allah Akbar. إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Faites ce que le prophète والسلام, faisait et qu'on ne se perde pas dans les choses que les gens faisaient. On essaie le modèle prophétique. Alors que les sahabas, ils voyaient d'autres sahabas faire certaines actions, mais ce n'est pas parce qu'un sahaba a fait que tout le monde faisait. Ils suivaient le modèle prophétique et après ce qu'ils pouvaient faire en plus, ils le faisaient en plus, mais c'était à titre personnel, individuel. Abi Hayyan At-Taymi, là on est de l'époque des tabi'ines et bien après eux, il dit qu'il y a eu telle personne, tel muhaddith hein, également qui était gravement malade et malgré ça, il faisait en sorte qu'on le portait pour venir à la masjid. Il lui a dit que, « Ya, cher, qadrukhi salak. » Tu sais que quelqu'un qui ne peut pas marcher, il peut faire la salat chez lui. Il dit que je connais le masla. Le cheikh lui-même, il connaît le masla. Il n'y a pas besoin qu'on l'apprenne. « Qad alimtu. » Mais, « Walakin asma'un nida bil falah. » Il dit, « Mais de chez moi, j'entends quelqu'un dire, « Haya ala al falah. » Venez avec le succès. Comment voulez-vous que je reste tranquille? Comment est-ce qu'on peut rester tranquille? Exemple décalé. Hein, quelqu'un dans sa chambre maintenant, si, il entend la musique Champions League. Comment il est, Duned? Connais-tu cette musique là-haut? D'accord? Il entend ça, il est dans le salon. Son bébé, il monte, lui, non? Tout de suite, il sait avoir. Allah Musta'in, excusez-moi, l'exemple est décalé. Il dit, je suis chez moi, j'entends Hayya 'ala al-Falah, comment est-ce que je peux résister? Je dis à des gens, portez-moi, amenez-moi à la masjid, parce que c'est l'annonce de du succès. Et ça, c'est les sahaba qui avaient yaqin aussi. Et pour terminer, l'histoire qu'on avait, je pense, abordée l'autre fois, l'histoire de Cheikh al-Islam, disait que le muadhin disait qu'une fois, j'étais entré dans la masjid, il faisait la salat, et je l'ai entendu lire dans la salat, tabarakalladhi, suratul mulk. On avait dit ça l'autre fois, non? Suratul mulk. Il lisait suratul mulk, et arrivé un verset, il s'est arrêté. C'est bien le répéter. Falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru. Puis lorsqu'il vit à le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru se sont affligés. Verset qui explique quand les gens qui n'ont pas cru en Allah, lorsqu'ils vont voir ahwal, situation de l'au-delà, comment leurs visages ils vont changer. Ils vont comprendre la réalité, ils vont comprendre que tout ce qui a été dit, ça se réalise maintenant. Si le visage il change, on dit au ladin kafir, dit qu'il le répétait avec crainte, de crainte que lui aussi, le jour de Qiyama, il fait partie de ces gens. Il dit qu'ensuite, il quittait la masjid, il est parti. Il dit que lorsque je suis revenu le lendemain en salat al-fajr, fasami'tu faida huwa fiha, il était toujours en train de lire le même verset, en train de le répéter avec crainte d'Allah. Parce qu'il s'est bloqué sur ce verset. C'est des gens, lorsqu'ils lisent le Coran, ils lisent avec une telle dévotion, une telle concentration. C'est vraiment le cœur qui est en relation directe avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Sulayman al-Taymi, hein, ça c'est des savants qu'on ne connaît peut-être pas trop. Il dit qu'il faisait partie des grands adorateurs d'Allah et des gens connus pour le tahajjud. Il disait que muhaddith, un narrateur de hadith, thiqa, c'est-à-dire un narrateur fiable dont on prend les hadiths et qu'on peut rapporter, en plus d'être un grand alim, d'être un grand muhaddith, c'était un grand adorateur d'Allah. Et les deux choses doivent marcher ensemble. Il dit, yusalli layla kulla, il passait toutes ses nuits de le qiyamul layl, bi wudu et isha al-akhira. C'est-à-dire, après le isha, il commençait ses tahajjud jusqu'à le lendemain. Wa kana huwa wa ibnuhu. Et là, on revoit encore les enfants. Il amenait son fils avec lui, yadurani bil layl fil masajid. Ils changeaient de masjid tous les soirs pour faire qiyamul layl. Un soir de cette masjid, il va faire toute la nuit tahajjud. Un autre soir, il va aller dans tel quartier pour faire qiyamul layl toute la nuit, lui avec son fils, avec le même wuzu de Isha, hatta yusbiha, jusqu'à la prière de Fajr. Un père qui amène son fils tous les soirs, fait allons passer la nuit, tel masjid, on va faire ibadah, l'adoration d'Allah toute la nuit. Ces gens-là, ils ont les hauts degrés. Et eux, ils seront, inshallah, sous l'homme du trône d'Allah. L'homme du trône d'Allah. Est-ce qu'on peut se comparer à eux? Est-ce qu'on a encore l'espoir? Quand on voit ça et qu'on voit notre situation, on se dit que ben là, c'est mal barré. Là. C'est vrai, ça va être dur de rivaliser avec des gens comme ça pour avoir une place sous l'ombre du trône d'Allah. Mais Allah est clément. Allah est Rahman Rahim. Allah, il est au-dessus de nous. Et si Allah veut nous donner cette place, Allah nous donnera tous, Inch'Allah, avec le peu d'efforts qu'on va faire. Donc, on va s'arrêter là. Il y a d'autres anecdotes, d'autres histoires encore, mais Inch'Allah, par la suite, on aura l'occasion de raconter encore d'autres histoires. On terminera avec Ash-Shirazi, un peu plus connu. Il a dit que Ida sami'tum hayra as-salah wa lam tarawni fi as-saff. Quelqu'un connaît la suite? Fatlubuni fi al-maqbara. Il dit que si vous entendez hayra as-salah le muadhdhin et que vous ne me voyez pas, quand il dit hayra as-salah, vous ne me voyez pas de le premier saf, dans ce cas, allez me chercher au cimetière, c'est que je suis mort. Parce que moi, quand il y a hayra as-salah, je suis déjà au premier rang. Si hayra as-salah, je ne suis pas au premier rang, c'est qu'il y a un problème, c'est que je suis déjà mort, allez assister à mon enterrement, à mon janaza. Ces gens-là, ils avaient le cœur attaché au masjid, bien loin de nous, un autre niveau, mais on doit prendre ces gens-là comme exemple et essayer de travailler notre fréquentation de la masjid, fréquentation du premier rang, takbir oula, attendre le salat, venir en état de wuzu, faire les dhikrullah après la salat, avoir le cœur attaché, amener nos enfants à la masjid, faire en sorte qu'on passe beaucoup de temps à la masjid. Tout ça, on essaie de travailler peu par peu, étape par étape, et ensuite tout est dans les mains d'Allah. Allah aura pitié de nous et Inch'Allah nous accordera Inch'Allah cette place. Qu'Allah nous accepte notre tawfiq de comprendre ces quelques paroles. On remercie Allah d'avoir complété ce chapitre ce soir sur cette troisième catégorie de personnes. Et Inch'Allah, par la suite, on verra les gens qui s'aiment, qui se fréquentent uniquement par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accepte, nous donne ces qualités, inshallah, et pardonne nos manquements et nos erreurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.